Voilà, mais écoutez, si vous étiez avec nous dimanche dernier, vous savez que nous avons commencé une mini-série de deux dimanches intitulée « Comment reconnaître un chrétien ?» Comment reconnaître un chrétien ? Et nous allons parcourir, ou nous parcourons l'épître de 1 Jean en deux dimanches. Donc bien sûr, c'est un survol, on va pas tout voir, c'est pas possible. C'est vraiment un survol pour nous donner les bases de ce qu'est un chrétien et surtout ce à quoi doit ressembler un chrétien. En autre terme, si tu te dis être chrétien, oui, je suis chrétien. Oui, je connais Jésus-Christ personnellement. Oui, je suis enfant de Dieu. Eh bien, ta vie devrait refléter ce que nous sommes en train de parcourir dans l'épître de 1 Jean. Alors, nous avons pas mal de matériel à couvrir parce que je voulais faire 7 points dimanche dernier. J'en ai fait que 5. Donc, aujourd'hui, il y en a 7 plus 2, ça fait 9. Alors là, on va vraiment foncer. Donc, attachez vos ceintures de sécurité. On va aller très, très vite, d'accord ? Juste pour revenir dans le contexte, pourquoi est-ce que j'ai choisi cet épître ? Nous allons commencer une série sur Satan, les démons et l'armure chrétienne. Il m'a semblé important avant de mieux comprendre et de bien comprendre ce que nous sommes en tant que chrétiens, parce qu'un chrétien est protégé de Satan. Et voilà un petit peu ce qui m'a motivé de parcourir 1 Jean. Nous avons vu que donc 1 Jean a été écrit par l'apôtre Jean. Il a écrit 1, 2, 3 Jean, l'évangile de Jean et Apocalypse aussi. Et il avait, lorsqu'il a écrit 1 Jean, deux buts en tête. Le premier but, c'était qu'il était en train de contre-enseigner cette doctrine qui s'appelait le gnosticisme, qui considérait que Dieu était bon et que tout ce qui était matière ou charnel était mauvais. Et il disait que puisque Dieu était bon, il ne pouvait donc pas avoir aucun rapport avec cette matière mauvaise. Il était donc impossible pour eux que Dieu devienne un homme, que Dieu prenne la forme d'un homme qui s'habille de chair humaine, puisque la chair pour eux était mauvaise. Ce qui veut dire qu'il niait l'incarnation de Jésus-Christ. Et la deuxième raison pour laquelle il a écrit cette épître, c'est pour affirmer les évidences du salut. Si tu reconnais l'incarnation de Christ comme étant vraie, si tu reconnais que Dieu est devenu un homme et qu'il y a salut en Jésus-Christ, eh bien, si tu l'as accepté par la foi, tes péchés sont pardonnés, tu es enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, tu dis non au gnosticisme et tu dis oui à Jésus-Christ, cela va se refléter dans ta vie. Et voilà ce qu'il veut souligner. Donc, c'est très clair, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, ça va se voir. Et voilà ce qu'il est en train de souligner. Donc, on a vu la semaine dernière, enfin, j'ai commencé en disant qu'un vrai chrétien régénéré, selon 1 Jean, se manifeste par 14 points, 14 évidences dans sa vie. Alors, je vais réviser rapidement celles qu'on a déjà vues, d'accord ? Un vrai chrétien régénéré, numéro 1, manifeste la joie. Regardez 1 et le verset 4, chapitre 1, verset 4. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Et juste avant le verset 4, il y a le verset 3 où il parle de cette communion que nous avons avec le vrai Dieu vivant. Donc la première évidence d'un vrai chrétien, c'est qu'il connaît, il est en communion avec le vrai Dieu et qu'il ait une joie surnaturelle qui surpasse les circonstances de la vie liées bien sûr à son salut en Jésus-Christ. Deuxième évidence d'un chrétien, il marche dans la lumière. Versets 6 et 7, je révise tout simplement ici, hein. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. La lumière dans la Bible décrit la pureté et les ténèbres le péché. Et donc un vrai chrétien ne marche plus dans les ténèbres, mais il marche dans la lumière. Sa vie reflète cette lumière, qui veut dire que sa vie aujourd'hui est caractérisée par un amour pour la pureté, pour la sainteté et pour la droiture. Le contraire de ce qu'il aimait avant. 3. Je révise encore. 3. Un vrai chrétien confesse ses péchés. Il confesse ses péchés. Le verset 7, verset 8 plutôt nous dit, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Voyez-vous, l'homme qui vit, ou la femme qui vit dans la lumière, va haïr le péché. Alors il va pécher. On ne peut pas dire qu'un chrétien ne peut pas pécher ou ne va pas pécher parce que le verset 8 nous dit que nous péchons en tant que chrétiens. Mais lorsque je pêche en tant que chrétien, puisque je suis imbibé de la nature sainte de Dieu, il va y avoir une réaction, et parfois une réaction violente. Et je vais haïr ce péché, je vais le détester. Je devrais devenir déprimé. J'espère que quand tu pêches, tu deviens déprimé et cette déprime te pousse à confesser ton péché. Et à demander pardon à Dieu. Et, si tu as offensé quelqu'un dans ton péché, à demander pardon à la personne que tu as offensée. 4. Le vrai chrétien garde les commandements. Garde les commandements. Chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Moi, j'aime bien, c'est clair et net. C'est clair et net. Si, conditionnel. Nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Ah ! Si tu le connais, virgule, tu vas quoi ? Garder ses commandements. Voilà, c'est exactement ce qu'il dit. Alors, question, parfaitement ? Est-ce que nous allons garder parfaitement les commandements ? Est-ce que nous allons jamais les violer ? Bien sûr qu'on va les violer, parce que verset 8 nous dit que si nous n'avons pas péché, nous nous séduisons. Nous péchons ! Donc c'est pas parfaitement, c'est impossible de garder la loi parfaitement. Mais, écoutez très bien, le chrétien, même s'il n'arrivera jamais à garder tous les commandements, dorénavant son plus grand désir, c'est de les garder parce qu'il les aime. Avant d'être chrétien, moi je ne sais pas si vous étiez comme moi, mais moi tout ce qui était lié à la Bible, aux commandements de Dieu, tout ce qui était lié à la justice, à la sainteté, je n'en voulais pas. Mais non, je n'aspire qu'à ça. Comment expliquer ? C'est une conversion qui explique ça. Une conversion à Jésus-Christ. Il change notre cœur, il change notre désir. Et à partir de maintenant, on lit la parole de Dieu et on l'aime et on veut l'obéir. Même si ce n'est pas parfait. 5. Un vrai chrétien aime son frère. Aime son frère, verset 9 du chapitre 2. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. De nouveau, hyper clair. J'aime bien ça. C'est la Bible, c'est super. C'est vraiment clair des fois. Là, c'est clair. Celui qui prétend être dans la lumière. Hé, je suis dans la lumière, je suis chrétien. Et qui est son frère. Ouais, mais je déteste tel et tel frère chrétien. Je le hais. T'es encore dans les ténèbres, t'es pas chrétien. Point à la ligne. Si tu es un chrétien, tu n'es pas chrétien. C'est intéressant, vous ne trouvez pas ? J'aimerais juste dire quelques mots là-dessus parce que j'y ai réfléchi encore cette semaine. Un chrétien ne hait pas son frère. Alors la haine, c'est très fort. C'est un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un et de s'en réjouir. Je déteste la personne au point où je veux qu'elle aille mal et je suis tout content quand elle va mal. Si c'est ton sentiment vis-à-vis d'un chrétien, il est très douteux, selon ce verset, que toi-même tu es chrétien. Pourquoi ? Chapitre 3, verset 16 nous dit « Nous savons que nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères. » On ne devrait pas haïr les frères, on devrait les aimer à tel point qu'on serait prêt à donner notre vie. C'est comme un frère naturel. Pensez à un frère ou une sœur que vous avez. Votre amour devrait être tel qu'on serait prêt à donner sa vie. Eh bien, pareil pour un frère ou une sœur en Christ. Alors, c'est le contraire de la haine, je dirais. Et verset 17, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? » En plus, si ton frère est dans le besoin, si toi, tu peux l'aider avec ce que tu as, fais-le. Voilà ce qu'on devrait faire. Alors de nouveau, c'est le contraire même de la haine. Alors je vais encore plus profond. Pourquoi est-il impossible pour un chrétien de haïr son frère, haïr un chrétien? Écoutez, c'est très simple. Écoutez très bien. La réponse se trouve dans Matthieu 5, 44. Dans Matthieu 5, 44, Jésus dit ceci. « Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. » Je répète. « Aimez qui ? Vos ennemis. » Alors écoutez, c'est simple. Si je suis appelé par le Seigneur à aimer mes ennemis et à leur faire du bien, comment puis-je haïr un frère en Christ? C'est impossible. Alors, est-ce qu'on peut ne pas s'entendre avec un frère? Oui, je l'ai mentionné très rapidement la semaine dernière. Oui, on peut avoir des différends, on peut avoir des conflits. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un conflit? Eh bien, on fait tout pour essayer de résoudre le conflit. Dans Romains 12, 18, c'est le verset que je ne trouvais pas dimanche dernier, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » On essaye d'être en paix avec tous les hommes. C'est une tentative, on essaye. Parfois, cela est impossible. Et cela peut même mener à des séparations. Et là, on le voit dans Acte 15, où Paul et Barnabas, qui étaient des grands amis, à un moment donné, se sont malheureusement séparés. Dieu l'a utilisé pour sa gloire. Mais c'était malheureux. Ils n'ont pas pu, même ces géants de la foi, résoudre leurs problèmes. Ça peut arriver. Mais, écoutez bien, quelle que soit l'importance d'un différend avec un chrétien, il ne doit jamais avoir de la haine. Jamais. Non, on aime ces chrétiens. On les bénit si on peut. On leur fait du bien. Et on fait confiance au Seigneur. Un chrétien qui est vraiment chrétien aime son frère, il ne le haït pas. Ça, c'était l'introduction. Ça, c'est révision, d'accord? Maintenant, on attaque le message. Vous êtes prêts? 6. Un vrai chrétien n'aime pas le monde. N'aime pas le monde. Chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors ces versets bien connus sont intéressants. Le terme « monde », « cosmos » rapporte ici à l'humanité incrédule sous la domination du malin. Dans 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde et les valeurs du monde sont infusées ou vraiment organisées ou influencées par Satan. Et les valeurs du monde sont caractérisées en trois choses, trois points. Premièrement, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, verset 16. Tout ce qui rend plaisir à la chair. C'est les gens qui disent, voilà, les passions de ma chair gèrent ma vie. Moi, ma vie, je vais tout faire pour dire oui lorsque ma chair veut quelque chose. Ça va, c'est ça qui va me motiver. Ça peut être les passions sexuelles, ça on le voit beaucoup autour de nous. J'irais même les passions culinaires. Alors bien sûr, ce n'est pas un mal de manger. Comme c'est pas un mal, la sexualité n'est pas un mal dans le cadre du mariage comme Dieu l'a décrit. Les passions culinaires, c'est d'aller au-delà de la norme. Je dirais même les passions du confort. Je veux donner le confort maximum à mon corps et c'est ça qui me pousse dans la vie. Donc, il y a la convoitise de la chair, de voir. Deuxièmement, la convoitise des yeux. Ça, c'est la convoitise des choses. C'est le toujours vouloir plus et ne jamais être satisfait avec ce que Dieu m'a donné dans ma vie. C'est de comprendre mon lot dans la vie, ce que Dieu m'a donné, j'en suis satisfait. Je le remercie et je l'adore. Alors, cela ne nie pas le fait qu'il y ait un avancement dans la vie, un progrès normal de l'homme, mais on n'est pas obsédé par ce progrès, ni obsédé par le vouloir de choses. Et l'orgueil de la vie, c'est le vouloir d'être exalté, c'est le vouloir que les gens disent toujours du bien de moi. Et c'est ça qui me motive dans le travail, dans le sport, dans mon foyer, dans mon intellect. Je veux toujours avoir l'attention des autres, être applaudi par les autres. Alors je trouve ce qui est important dans ces versets, c'est le mot amour. Il dit « n'aimez pas le monde ni ses valeurs ». Et le mot aimer, c'est le mot agapé. Agapé, C'est le mot qui parle de sacrifice. J'aime quelque chose et je suis prêt à sacrifier pour l'avoir. Et d'habitude, on sacrifie pour l'objet de notre amour. Donc, est-ce que je sacrifie dans ma vie pour la convoitise de ma chair, pour la convoitise de mes yeux et pour l'orgueil? C'est ça la question. Donc, je sais si j'aime le monde en voyant ce que je suis prêt à sacrifier pour l'avoir. Dieu a aimé, agapé le monde, qu'il a sacrifié son Fils. J'aime ma femme, j'espère que je suis prêt à sacrifier pour elle. On aime Dieu, on est prêt à sacrifier pour lui. Oui, mais moi j'aime la chair, moi j'aime mes yeux, et moi j'aime l'orgueil. Donc je sacrifie pour ces choses-là. Alors le bilan est très facile à faire. Qu'en est-il de toi? Tu sacrifies dans quel domaine? C'est hyper pratique, vous ne trouvez pas? Hyper pratique. C'est intéressant, dans 1 Jean 5,4, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque nous sommes chrétiens, nés de Dieu, nous ne sommes plus esclaves au monde et les valeurs du monde. Nous pouvons dire non. Non, je refuse. Pour moi, je vais sacrifier pour les valeurs de Dieu aujourd'hui. 7. Un vrai chrétien demeure fidèle. Un vrai chrétien demeure fidèle. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous avez appris que l'antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, certaines Bibles ont antichrist, c'est la même chose. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous avez remarqué, je ne peux pas faire tous les versets, on n'a pas le temps, donc je touche vraiment les points centraux ici. Le verset 18 nous dit... Antéchrist, la même chose. Quand, notez bien, il y a un antéchrist, un antichrist dont il parle, et cela désigne le dirigeant mondial satanique qui surgira à la fin des temps pour s'opposer à Jésus-Christ et qui fera la guerre avec les chrétiens, ils les persécuteront. Vous pouvez lire Apocalypse 13. Mais il parle aussi du fait qu'il y a plusieurs antéchrists ou antichrists, et le mot au pluriel, plus généralement, ici décrit les faux docteurs ou les faux prophètes qui troublent les églises et dont celles à qui Jean écrivait, parce qu'ils donnaient un enseignement erroné et perverti de la juste doctrine chrétienne. Ce sont les loups déguisés en brebis. Et il part de la dernière heure. Jean était convaincu, comme la plupart des apôtres, qu'eux vivaient dans la fin des temps. Alors, quelle était la nature de cette fausse doctrine? Le verset 22, il dit « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ?» Alors, nous l'avons vu, il niait la divinité de Jésus-Christ, comme les témoins de Jéhovah aujourd'hui. Alors, je trouve le verset 19 intéressant, car il dit « Ils sont sortis du milieu de nous, donc c'était des gens, les antéchrists pluriels, étaient dans l'église, ils étaient au milieu de nous, mais ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. Car s'ils avaient été les nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Jean souligne qu'un des premiers signes d'un faux docteur dans une église, c'est son incapacité de rester ou demeurer dans l'assemblée. Pourquoi? Parce que l'Église, elle, s'attache à la vérité enseignée dans les Écritures. Si l'Église reste fidèle, je dis bien si, si l'Église reste fidèle et attachée aux Écritures, tôt ou tard, les faux docteurs ne pourront plus supporter la saine doctrine et la quitteront. Et le fait, Jean dit, qu'ils quittent l'Église révèle qu'ils n'étaient pas vraiment des leurs et qu'ils n'étaient en fait pas vraiment chrétiens. Je pense qu'on peut élargir et appliquer ceci aux chrétiens individuels. Parfois dans nos églises, nous voyons des personnes qui font profession de foi. Ils sont tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Ils se disent être chrétiens. Nous pensons qu'ils sont chrétiens. Et on est impressionné. Et puis un jour, tout d'un coup, on ne les voit plus. Ils disparaissent de la nature. On n'arrive pas à les récupérer. D'autres font profession de foi et semblent vraiment progresser avec le Seigneur. Parfois, pendant des années, ils se font baptiser, viennent au culte, se joignent à une étude biblique, prennent même des responsabilités dans l'Église et même peut-être dans l'enseignement. Et puis un jour, quelque chose arrive dans leur vie et tout change. On les voit de moins en moins et ensuite on ne les voit plus. Ils disparaissent eux aussi dans la nature. Alors, que penser de ces personnes ? Alors, il y a deux possibilités. Premièrement, c'est peut-être des chrétiens qui passent par des moments de difficulté ou de désobéissance. Ça arrive. Mais dans ce cas-là, dans le temps, ces personnes se repentiront. Un vrai chrétien, tôt ou tard, se repentira et reviendra au Seigneur et à l'Église. C'est ce que Jean implique ici par rapport au faux docteur. Les vrais restent ou reviennent. Mais, selon 1 Jean 2,19, lorsqu'une personne rejette le Seigneur et disparaît pendant longtemps, voire pour toujours, alors nous pouvons peut-être conclure que cette personne, écoutez bien, n'était jamais vraiment réellement convertie. Alors, nous savons qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut. Ce n'est pas possible. S'il pouvait perdre son salut, alors le salut ne serait pas par la grâce et ni par la foi, mais par les œuvres. Car mes œuvres deviendraient déterminantes pour la sécurité de mon salut. En plus, Éphésiens 2, 8 et 9 nous dit que nous sommes sauvés par la grâce, par la foi et pas par les œuvres. Donc c'est clair. Donc on ne peut pas perdre son salut. Non, la conclusion c'est que si quelqu'un marche avec le Seigneur et un jour disparaît pendant longtemps et on ne les voit plus et on se pose la question se pose, était-il vraiment authentiquement converti ? Et peut-être, après très longtemps, on peut se peut-être répondre non. Comme un exemple frappant dans la Bible, celui de Judas. Judas avait l'impression d'être chrétien. Tout le monde pensait qu'il l'était, mais c'était le fils de la perdition. Il n'a jamais été converti. Or, il avait été disciple de Jésus-Christ. Un vrai chrétien, et voici la clé, persévère, demeure fidèle. Même s'il chute, il reviendra un jour. Moi, je connais quelqu'un qui était un fervent membre d'une église. Pendant des années, il avait des responsabilités, il était connu, respecté. Il enseignait, et un jour, il a quitté l'église. Fâché par rapport à quelque chose. Ça fait des années en arrière. Je connais cette personne et on m'a dit qu'il n'a encore jamais remis les pieds dans une église depuis 9 ou 10 ans. Moi, je me pose la question. Était-il vraiment converti ? Vraiment. Moi, je pense que la question est légitime. 8. Ça va ? Vous tenez le coup ? Il faut aller vite, là. 8. Un vrai chrétien se purifie. Un vrai chrétien se purifie. Verset 28 du chapitre 2. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous avons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Verset 3 du chapitre 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Dans ces quelques versets, Jean explique pourquoi nous devons demeurer fermes en lui, car un jour le Seigneur va revenir. Un jour le Seigneur réapparaîtra et il viendra nous chercher, nous qui sommes de vrais chrétiens. Alors bien sûr, il y a des variations d'opinion parmi les chrétiens sur quand et comment Jésus va revenir, mais tout le monde est formel, la Bible enseigne que Christ va revenir. Ça c'est sûr. Dans Marc 13, 32, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Voilà ce que Jean reprend comme thème ici. Est-ce que nous attendons avec hâte le retour du Seigneur Jésus-Christ ? J'espère qu'il y a un « Amen » dans votre cœur qui retentit aujourd'hui. Et alors, un vrai chrétien se prépare pour ce jour. Comment ? Premièrement, verset 28, il s'assure qu'il n'aura pas honte d'être éloigné de lui. Il est sûr qu'il est vraiment chrétien. Et que lorsque Christ reviendra, il sera accueilli par lui. Donc s'il y a un doute dans ton cœur par rapport à cela, ne sors pas de cet endroit sans être certain que s'il revient aujourd'hui, tu seras pris avec lui. Au verset 29, il pratique la justice. Si vous savez qu'il est juste, pratiquez la justice. car ceux qui sont nés de lui, puisqu'il est juste, pratiquent la justice. Et regardez verset 3 du chapitre 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Nous avons été pardonnés, nous avons été donnés la justice de Dieu. Notre humanité essaye d'arriver à cette sainteté dans laquelle il nous a déjà placés. Christ va revenir, lui, parfaitement saint. Il va nous prendre et nous transformer. En fait, ce que nous faisons, c'est qu'aujourd'hui, nous nous préparons pour ce jour de pureté parfaite. 9. On aurait pu les lier. 9. Un vrai chrétien ne pratique pas le péché. Je dirais, c'est l'opposé ou disons l'autre face de l'idée de se purifier. Il ne pratique pas le péché. Regardez ce qu'il dit au verset 4, chapitre 3. Quiconque, alors ça a été un problème pour certains chrétiens, je vais vous l'expliquer. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché, quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Car c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Alors de nouveau, clair et net. Alors, il faut bien comprendre que Jean n'est pas en train de dire quelque chose qu'il ne dit pas. Une lecture sommaire de ce texte pourrait donner l'impression que Jean affirme qu'un vrai chrétien ne pratique tout simplement pas ou plus le péché. C'est ce qu'il dit. Moi, c'est l'impression qu'on a. Et donc, un chrétien peut atteindre un niveau de quasi-perfection. Presque angélique, disons. Auréole et tout, quoi. Mais ce n'est pas possible qu'il dise ça. Pourquoi ? Parce qu'on l'a déjà vu, je ne sais pas combien de fois, dans 1:8, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Parlant de nous, chrétiens. Verset 10, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » C'est pour ça qu'au verset 9, il nous dit « Confessez continuellement vos péchés. » Alors certains groupes chrétiens pousse cette sanctification à l'extrême et enseigne qu'il est en fait possible de ne pas pécher et que les chrétiens devraient en arriver là. Moi, je suis en désaccord avec cette position. Ce que j'en dis ici est que globalement, le péché est fondamentalement incompatible avec la vie chrétienne et que chaque fois, écoutez, qu'un chrétien pêche, cela devra susciter en lui une vive réaction d'horreur et de répulsion vis-à-vis de son péché. Scofield dit, le verbe grec traduit dans nos Bibles, pratique le péché, a le sens d'une action continue ou habituelle. Il se réfère à une attitude à l'égard du péché qui peut devenir une habitude. Jean ne fait aucunement allusion à un prétendu état de perfection où le chrétien ne pourrait plus pécher, mais il souligne le fait qu'un chrétien né de Dieu ne peut se complaire dans la pratique du péché. Donc ce que Jean affirme est tout simple. C'est que la norme pour le chrétien, l'habitude normative d'un vrai chrétien n'est plus le péché, mais la justice. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il ne pratique plus le péché de manière régulière, mais de plus en plus de manière exceptionnelle. Le péché diminue dans sa vie, la justice augmente. Le péché devient de moins en moins fréquent et la justice devient de plus en plus fréquente. Moi, je trouve intéressant que Paul dit à Timothée, alors Timothée c'était un jeune pasteur, il lui dit quoi? Dans 1 Timothée 4:12, il lui dit ceci, « Jusqu'à que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Alors ça, c'est pas la perfection, c'est le progrès. C'est très, très différent. Et moi, je dirais la même chose par rapport à moi. Si vous me regardez très, enfin même pas, j'allais dire très minutieusement, il n'y a même pas besoin de me regarder très minutieusement, vous allez voir un homme et un pasteur qui pêchent, point à la ligne. Mais je ne suis pas seul. Parce que vous êtes dans le même bateau que moi. On est tous pareils. Ce que je souhaite et je prie, c'est que vous, en me regardant, vous me voyez progresser. Et moi, à mon tour, j'ai envie de vous voir, chacun et chacune, progresser pour la perfection future. Et voilà ce qu'il est en train de dire ici. De moins en moins, la pratique du péché est la norme dans ma vie. Dans ce sens-là, il parle de pratiquer le péché. Pourquoi ? Ben, il le donne au verset 9, la raison théologique, c'est que nous avons la semence de Dieu qui demeure en nous. Nous avons été nés de nouveau et la justice de Dieu est là, et donc nous avons maintenant la capacité de moins en moins pécher. C'est fort ce qu'il dit au verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque pratique la justice n'est pas de Dieu, celui qui n'aime pas son frère. Tu te dis être chrétien, est-ce que la justice est visible dans ta vie ? C'est simple que ça en fait. Vous dites c'est important ? Ah ouais. Vous vous rappelez Matthieu 7, verset 21, Jésus dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Ouais, t'arrives à voir, mais je suis un chrétien super fervent, tu m'entends pas là le dimanche matin ? Oh Seigneur, Alléluia ! Super, c'est bien. Non, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous même pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. T'es un faux. Ah bon ? Sur quelle base est-ce que je suis un faux ? Ah ben il le dit ici. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Un chrétien qui se dit être chrétien et qui régulièrement commet l'iniquité, tu te poses la question, est-ce qu'il a vraiment été converti ? Puisqu'il a la semence de Dieu, apparemment en lui, fait en sainteté, cette sainteté devrait avec le temps surgir dans sa vie. Donc, c'est clair, Dieu veut voir cette tendance à l'obéissance dans une vie d'un homme ou une femme régénérée en Christ. 10. Là, on fonce, d'accord ? Un vrai chrétien éprouve les esprits. Regardez chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Une autre manière de décrire ce point, c'est simplement qu'un vrai chrétien aura du discernement spirituel. Il aura du discernement spirituel. Il sait faire la part des choses entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est du diable, entre la vérité et entre l'erreur. Le chrétien, verset 1 nous dit, doit éprouver, tester, vérifier les esprits. Pourquoi ? Pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas de Dieu. Car il y a l'Esprit de Dieu qui nous révèle sa vérité, et il y a, oui, des esprits démoniaques qui cherchent à tordre la vérité pour un mensonge. Il le voit, dans verset 1, il nous parle, « Pourquoi devons-nous discerner tous ces esprits ? Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Donc il y a des vrais prophètes et il y a des faux prophètes. Il faut discerner entre le vrai et le faux. Dans son contexte, l'erreur était par rapport à l'incarnation de Jésus-Christ. Ceux qui niaient l'incarnation, versets 2 et 3, étaient faux. Ceux qui acceptaient l'incarnation étaient vrais. Et il dit au verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Écoutez, vous êtes de Dieu, donc ne soyez pas leurrés par l'erreur. » Voilà ce qu'il est en train de dire. Au verset 5, il dit « Que ceux qui sont du monde parlent d'après les choses du monde. » Les faux prophètes trouve des formules qui plaisent au monde, mais pas nous. Nous ne cherchons pas à plaire au monde, nous cherchons à plaire à Dieu et, comme Ézéchiel, à être fidèle à sa parole. Amen. Et c'est ce qu'il dit. Écoutez, mes amis, là, il y a vraiment un avertissement pour nous, car 2 Timothée 4 nous décrit comment sera la fin des temps. Oui, dans 2 Timothée 4, Verset 1, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et instruisant, car, voici la clé, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers des fables. » Et il est dit dans 1 Timothée 4, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Oui, mes amis, à Genève, aujourd'hui, il y a des doctrines de démons, des esprits séducteurs, il y a de l'erreur. Et nous devons examiner, analyser et tester ces esprits. Et ça, ça va prendre une génération d'hommes et de femmes bibliques. Actes 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Mes amis, vous recevez la parole que je vous prêche avec empressement et regardez ce qu'il dit. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. À vous de vérifier, Bible en main, l'exactitude de l'enseignement que vous recevez. Amen. C'est obligatoire, mes amis. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Ça, c'est sûr. Nous avons besoin les uns des autres. 11. 11. Un vrai chrétien croit que Jésus est le Christ. Juste un verset. 1 Jean 5, 1. Très très beau. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime celui qui est né de Dieu, qui est né de lui. Je trouve intéressant. Regardez ce qu'il dit. Quiconque croit que Jésus est le Christ. Si tu crois que Jésus est loin de Dieu, le Messie, Dieu incarné, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Si tu crois cela par la foi, si tu acceptes Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, tu es né de Dieu. C'est une nouvelle naissance, Jean 3. Alors écoutez, c'est radical. C'est une nouvelle naissance. Ce n'est pas une religion. Il y a une transformation au niveau de ton cœur et ta vie. Clac ! Il transforme ton cœur. Une nouvelle naissance, Jean 3. Il n'y a que Christ qui peut transformer un cœur comme ça. Pourquoi ? Parce que Christ aujourd'hui est vivant. Tous les prophètes sont morts. Christ est mort et ressuscité. Il est vivant. Il a vaincu la mort, vaincu le péché. Il est vivant. Il a le pouvoir de nous transformer. Il a le pouvoir de nous pardonner nos péchés. Il y a exclusivité. Car dans Actes 4, 12, qu'est-ce qu'on apprend ? Il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a qu'un chemin, une vérité, un sauveur, une nouvelle naissance en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Donc un vrai chrétien croit cela. Il croit que Jésus est le Christ et personne d'autre. 12. Un vrai chrétien a l'assurance du salut. Ça suit. Regardez chapitre 5, verset 13. J'espère que vous l'avez souligné dans votre Bible. 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses, tout ce que je viens de lire, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Regardez bien le verbe « sachiez ». Ce n'est pas « je vous ai écrit ces choses afin que vous pensiez que peut-être éventuellement vous ayez la vie éternelle ou avec un peu de chance vous aurez peut-être la vie éternelle un jour. Non, c'est une certitude. Je vous écris ces choses afin que vous, quoi ? Sachiez. Quand ? Maintenant. Alors moi, un des grands tests que je pose à quelqu'un quand je le rencontre qui se prétend être chrétien, dans la discussion, je pose toujours deux questions. Un, si tu mourrais ce soir, est-ce que tu es sûr sans aucun doute que tu passerais l'éternité dans la présence de Dieu? Alors la réponse, elle est géniale. S'ils disent « Ah ouais, absolument sûr !» Je dis « Ah, là, peut-être, on est sur une bonne piste. » Mais la plupart des gens disent « Bon, écoute, on verra bien. » Ça, qui peut savoir? Alors là, ça clignote. Alors est-ce qu'ils ont vraiment compris ce qu'est le salut? Parce que je vais à ce verset, je leur dis, mais écoutez, la Bible dit que vous pouvez savoir maintenant. Deuxième question que je leur pose, si tu mourais ce soir, et si tu te trouvais devant la porte du ciel et que Dieu te dise, pourquoi devrais-je te laisser rentrer dans mon ciel? Qu'est-ce que tu répondrais? Alors, si la personne répond, parce que Christ est mort pour mes péchés. Ah là, je dis, alors là, là, elle a tout compris. Mais beaucoup de gens répondent, ben, j'ai jamais tué personne. Bon, je suis quand même pas super mauvais comme d'autres personnes que je connais. Je garde la plupart des commandements. Là, c'est des gens qui n'ont rien compris. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent gagner le ciel par leurs bonnes œuvres. Et donc, ils attendent l'éventualité. Non ! 1 Jean 5,13 nous dit, tu peux savoir maintenant sur quelle base ? Sur la base que la parole de Dieu, inspirée de Dieu, t'annonce que Christ est mort, ressuscité, et que tu es sauvé. Et ça, tu peux le croire et être assuré parce que la Bible l'affirme. Amen ? Donc, s'il n'y a pas d'assurance du salut, peut-être, il y a un doute sur la réalité de ce salut. Encore 2 points rapides. 13. Un vrai chrétien ne commet pas le péché qui mène à la mort. Ne commet pas le péché qui mène à la mort. Regardez, je lis simplement les versets, c'est très simple. Verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère et il donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Alors, je résume, parce qu'on n'a pas le temps d'aller dans le détail. Écoutez bien, il parle à des chrétiens. Verset 16, si quelqu'un voit son frère, c'est un chrétien qui pêche. Certains péchés, nous disent, mènent à la mort, certains pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Certaines fois, Dieu, pour préserver la pureté de l'Église, prend tout simplement la vie d'un chrétien. Car sa vie de péché n'honore pas le Seigneur et provoque un témoignage contre-productif à l'égard de l'Évangile. On a dit que des chrétiens peuvent pécher. Et parfois, ce péché est si grave, si détrimental pour l'Église, que Dieu prend sa vie et l'arrête, tout simplement. N'en sait pas. Alors, il n'y a pas une liste de péchés spécifiques. Nous ne savons pas quels sont ces péchés. En fait, ce n'est même pas une liste de péchés, c'est la volonté tout simplement de Dieu. Dans 1 Corinthiens 11, lorsqu'il est parlé de la Sainte Seine, il est dit que certains prennent la Sainte Seine indignement et que le résultat, verset 30, est que certains sont infirmes, beaucoup sont infirmes et malades et qu'un grand nombre sont morts. Il y a des gens à Corinthe. Leur vie était tellement une aberration à Dieu, bien qu'ils étaient chrétiens, Dieu les a pris. Fini. On te sort du monde. Dans 1 Corinthiens 5, Paul a dit de l'homme qui vivait dans un péché sexuel, sortez-le de l'église pour qu'il meure, pour que sa vie soit prise. Un chrétien ne devrait pas rentrer dans un mode de péché qui pourrait provoquer sa mort. Comment l'éviter ? Confesse ton péché régulièrement. Confesse. Demande pardon. Demande à des frères et des sœurs t'aider. Et continue sur la voie droite, qui est celle du Seigneur. Et dernier point, regardez le dernier verset du livre. 14. Un vrai chrétien se garde des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Là, je pense que ce n'est pas un problème pour un vrai chrétien. Verset 20 nous parle du fait que Dieu est véritable. Christ est véritable et tout ce qui est hors Dieu et hors Christ est faux. Les idoles traditionnelles, c'est une image qui représente une divinité que l'on adore comme si elle était divinité elle-même. Donc l'idolâtrie, c'est un culte rendu à l'idole d'un faux Dieu. Mais écoutez, un vrai chrétien adore le vrai Dieu et son Fils, n'est-ce pas ? Donc ça ne devrait pas être un problème qu'un vrai chrétien se garde des idoles. La question qu'il faut se poser dans ce point-là, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse plus dans la vie que Dieu ? S'il y a quelque chose qui t'intéresse plus que Dieu, est-ce qu'alors, peut-être là, cette chose devient une idole dans ta vie. Ça va? On a parcouru du parcours aujourd'hui. Hein? C'est quoi un vrai chrétien? Je résume. Un vrai chrétien manifeste la joie, marche dans la lumière, confesse ses péchés, garde ses commandements, aime son frère, n'aime pas le monde, demeure fidèle, se purifie, ne pratique pas le péché, éprouve les esprits, croit que Jésus est le Christ, a l'assurance du salut, ne commet pas le péché qui mène à la mort et se garde. Inclinons-nous, je vais inviter le groupe de louanges à venir, je crois qu'on a un dernier chant avant de nous quitter. Prenez quelques instants, réfléchissez, priez. Est-ce qu'il y a quelque chose de ce que vous avez entendu ce matin qui doit être réglé dans vos... Inclinons-nous, prenons ce temps pendant que le groupe de louanges s'avance. Seigneur, merci pour 1 Jean, merci pour ce livre percutant, fascinant, dur, Seigneur. Oui, il est dur, très noir et blanc, très clair, très net. Oh Seigneur, tu connais chacun de nous, nos cœurs. Tu connais là où nous sommes. Tu connais qui est chrétien, qui n'est pas chrétien ici ce matin. Tu connais les chrétiens qui vivent dans la justice, d'autres qui vivent dans la désobéissance. Seigneur, tu sais toutes choses. Il n'y a que toi qui, par ton esprit, tu peux travailler chacune de nos vies là où on a besoin d'être travaillé. Seigneur, je te le supplie, fais-le. Dans ta souveraineté, fais-le. Et fais de nous une église de racheté, digne de ce nom, Seigneur, que tu peux utiliser pour ta gloire. Si quelqu'un ne connaît pas Christ ce matin, qu'il s'avance, Seigneur, qu'il dise aujourd'hui, « Oh, aujourd'hui, je veux connaître Christ. Je veux te pardonner de mes péchés. Je veux commencer ce parcours. Oh, Seigneur, fais ton œuvre. Et je t'en remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. »